Bonjour à tous. Avant le message, j'aimerais. Tu peux couper en attendant. Merci. Donc, c'est mon premier message cette année et c'est toujours délicat. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et Seigneur, aide-moi. Et je demande toujours beaucoup, instamment au Seigneur, de guider le choix des textes bibliques. Ce matin, il y a deux textes qui sont parallèles, mais le premier, c'est 1 Corinthiens 13, 13. C'est facile à retenir. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a trois choses fondamentales dans la vie chrétienne. Et ces trois choses sont celles qui demeurent, ce sont celles qui restent. Tout le reste peut disparaître, ces trois choses doivent demeurer dans nos cœurs et dans nos vies si nous sommes chrétiens, la foi, l'amour et l'espérance, ou la foi, l'espérance et l'amour. Il y a une représentation de ces trois choses que les Camarguais ont inventées, la fameuse croix camarguaise qui date des années 1920. C'est une croix, donc c'est une croix qui représente la foi, avec un cœur au milieu qui représente l'amour, et une encre tout en bas qui représente l'espérance. Vous pourrez regarder la croix camarguaise, la foi, l'espérance et l'amour. Et je trouve que c'est un magnifique symbole de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas les trois est un chrétien bancal. Un chrétien qui ne vit pas dans la foi, dans l'amour et l'espérance est un chrétien handicapé, amputé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous attacher à ces trois choses et de les garder. Et j'aimerais regarder comment des chrétiens de la Bible le vivaient. C'est en 1 Thessaloniciens, c'est mon deuxième verset là. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Je vais lire les premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et on voit que ces chrétiens de Thessalonique avaient les trois, vous avez remarqué, et ce n'est pas de la philosophie chrétienne là. Ils n'avaient pas la foi, l'amour, l'espérance en philosophie. Qu'est-ce qu'il est dit sur cette foi? Il est parlé de l'œuvre de la foi, ensuite pour l'amour, le travail de l'amour et l'espérance, la fermeté. La vie chrétienne n'est pas une vie philosophique, c'est une vie de tous les jours. La foi doit être dans ma vie de tous les jours, l'amour doit être dans ma vie de tous les jours, l'espérance doit être dans ma vie de tous les jours. Pas seulement le dimanche matin entre 10h et midi. Et ces chrétiens étaient particulièrement connus dans toute l'Asie mineure pour leur foi. Pourtant, ils étaient très persécutés. Les Thessaloniciens ont été tout de suite attaqués dès qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils ont commencé leur premier groupe de maison et puis ensuite leur première église. Ils ont été persécutés par les autorités, par des ennemis de toutes sortes. Et malgré tout cela, ils ont gardé la foi. Et leur foi même s'est répandue dans toute la région. Ils étaient connus, on disait, tu as vu la foi des Thessaloniciens? Ils avaient une réputation. Est-ce que nous avons une réputation? Une bonne réputation. Alors la foi, c'est quoi? La foi, bien sûr, c'est cette confiance totale en notre Dieu. Pour moi, quand j'étais dans la religion catholique et puis après dans l'athéisme, la foi, c'était un mot qui voulait rien dire pour moi. La foi, c'était une sorte de gaz, je ne sais pas, une sorte de chose. Il y en a qui ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais dans la foi, il y a l'idée de fidélité et il y a l'idée de confiance. Et c'est la confiance dans la fidélité de Dieu. Une confiance profonde, mais une confiance particulière. C'est une confiance sans le voir. La foi, c'est sans voir. On peut avoir confiance en quelqu'un qu'on a vu. Hein. Je te vois bien, vous, je vous vois bien. Bon, ben, je sais que vous êtes là, je peux vous faire confiance. Mais quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ça, c'est la foi. Bien sûr, on a vu les effets de Dieu. Comme a dit quelqu'un, hein, l'électricité, vous ne la voyez pas dans votre appartement ou dans votre maison. Hein. Par contre, quand vous appuyez sur le bouton, sur l'interrupteur, il y a la lumière qui s'allume. Oh, miracle ! C'est l'électricité. On ne la voit pas, mais elle agit. Et de la même façon, Dieu ne le voit pas, mais il agit. Surtout, justement, quand on a la foi en lui. Tout ce que nous avons de Dieu, nous l'obtenons par la foi. Le salut, le pardon de nos péchés, nous l'avons obtenu parce que nous avons mis notre confiance en Dieu. Le premier homme qui illustre ça, c'est Abraham, si vous lisez le livre de la Genèse. Abraham n'était pas croyant spécialement, son père était fabricant d'idoles. Alors à la maison, il devait y avoir plein de divinités, plein de toutes sortes de croyances, aussi bizarres les unes que les autres, parce que les païens à cette époque avaient des drôles de croyances. Et Abraham était élevé dans ce milieu. Et un jour, l'Éternel, le Dieu invisible justement, celui qui n'a pas d'idole, qui n'a pas de statue, s'est révélé à Abraham. Et il lui a dit, tu vas avoir une postérité comme le sable de la mer et ta postérité sera une bénédiction pour la terre entière. Et la Bible dit qu'Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que Dieu l'a justifié pour sa foi. Est-ce que vous avez cru Dieu? Est-ce que vous avez cru en sa promesse, en sa parole? Est-ce que vous avez cette foi dans le Dieu invisible? Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore, mais nous sommes certains qu'il est là. Aussi certains que ce pupitre-là est devant moi et fait du bruit, je sais que Dieu existe, qu'il est vivant. C'est par la foi qu'on peut connaître Dieu personnellement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, dit la Bible. On ne peut pas connaître Dieu par un autre moyen. On peut essayer de raisonner, de dire, voilà, je vais raisonner, forcément, il y a une cause à tout effet. Comme nous voyons la vie sur la terre, il doit y avoir un être vivant qui est la cause de cette vie. Et c'est vrai, c'est de la logique, mais ce n'est pas comme ça qu'on connaît Dieu. Pour connaître Dieu, il faut avoir la foi, la confiance en lui. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut une relation. On ne peut pas avoir la foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui est loin. Pour avoir la foi, il faut que la personne soit proche et qu'on la connaisse. Et en ayant la foi, on peut la connaître. Et en la connaissant, on a de plus en plus la foi. Quand j'étais nouveau chrétien, j'avais une toute petite foi. Tout ce que j'ai cru au début, quand on m'a expliqué le message de l'Évangile, c'est que Dieu voulait me pardonner tous mes péchés. Et ça, je l'ai bien compris. Et j'ai dit, oui, je veux accepter ce pardon, je veux être sauvé. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. J'avais 19 ans et le Seigneur m'a sauvé ce jour-là. Mais pour le reste, je n'avais pas beaucoup de foi. Par exemple, j'étais fumeur. Et puis, au bout de quelques mois de vie chrétienne, je me disais, mais c'est vraiment bête de me rendre esclave de ce poison parce que je sentais que ça ne me faisait pas du bien. J'étais toujours la gorge prise, je sentais mauvais le tabac froid, ça me coûtait cher, etc., etc. Je me dis, non, c'est pas bon, il faut que tu arrêtes de fumer. Alors j'ai commencé à descendre et je suis arrivé à descendre à 2 ou 3 cigarettes par jour. J'étais très fier de moi, sauf que impossible de me débarrasser de ces dernières cigarettes. Celles qu'on a, vous savez, après le repas du midi. Pour les fumeurs, ils savent de quoi je parle. Avec le café, par exemple. Et j'ai dit, oh, j'y arriverai pas. Et puis, j'en ai parlé avec mon pasteur. Et il m'a dit, mais est-ce que tu as prié pour ça? Prié pour arrêter de fumer? Mais oui, est-ce que tu as prié? Ah bon, on peut prier pour arrêter? Ben, bien sûr qu'on peut prier pour arrêter de fumer. On peut prier pour toute chose, tout besoin. Ah bon? Alors j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, voilà, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais aide-moi à arrêter de fumer. Et tout ce dont je me rappelle, c'est qu'une semaine plus tard, je n'avais pas fumé pendant une semaine. C'est-à-dire, c'est comme si je m'étais réveillé un moment. J'avais mes cours, j'étais étudiant et tout ça, j'avais plein d'activités. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, tiens, la semaine dernière, j'ai prié, mais en fait, j'ai pas fumé là. Ça fait une semaine que j'ai pas fumé. Dieu répond à la prière. Et là, j'ai commencé à découvrir quelque chose s'est ouvert pour moi. La foi en Dieu peut obtenir des choses par la prière. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu m'aimait personnellement et qu'il voulait répondre à mes besoins aussi. Pas seulement aux besoins de la terre, de l'humanité, il voulait répondre aux besoins de ses enfants. Par contre, si nous n'avons pas la foi, la confiance en Dieu, la Bible dit que nous sommes comme un bateau dérivant. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un bateau qui n'a plus de moteur ou plus de voile. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. On ne se rend pas compte, on dit, bah, il n'y a pas de moteur, mais au moins je suis sur un bateau. Oui, mais le bateau va commencer à être bousculé par les vagues. Il va être entraîné là où vous ne savez pas, là où vous ne voulez pas aller. Et un chrétien qui n'a pas de foi, c'est un bateau dérivant. Il va aller un coup là, un coup par là, et il va aller dans les rochers et il va s'écraser rapidement. C'est très important qu'un chrétien ait cette confiance en Dieu. Et Satan, notre ennemi, le sait. La première tentation, c'était au sujet de la foi. Lorsque le serpent s'est adressé à Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de miner la foi qu'elle avait dans le Créateur. Il lui a dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Déjà, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce qu'il a vraiment dit comme tu le penses? Parce qu'il avait dit, mange de ce beau fruit-là. Et Ève avait dit, non, non, Dieu nous a interdit d'en manger, sinon on va mourir. Et le serpent lui dit, mais Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit? Et ça, alors là, c'est tellement fréquent, depuis des millénaires, ils répètent le même mensonge. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? C'est même pas un mensonge, c'est une suspicion. Ils sèment le doute, le petit doute, et puis après le doute fait un trou dans votre foi, dans votre âme, et après vous perdez toute confiance en Dieu. Parce qu'il est allé plus loin, le serpent, il a dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit interdit, vous serez comme Dieu. Donc il a fait croire à Adam et Ève que Dieu était jaloux de sa divinité et que Dieu leur interdisait ce fruit parce qu'en le mangeant, ils seraient comme Dieu et Dieu ne voulait pas que quelqu'un soit comme lui. Et c'était un énorme mensonge. Dieu voulait révéler toute sa sagesse, tout son amour, toute sa connaissance à Adam et Ève. Il est dit que tous les soirs, il passait du temps avec eux dans le jardin. Mais ils ont cru au mensonge et ils ont pris le fruit. Combien aujourd'hui croient encore à ce mensonge? Au sujet de la Bible, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, mais la Bible, c'est beaucoup de légendes, c'est beaucoup. Non, il ne faut pas croire la Bible. Et puis, quand la Bible dénonce certains péchés, on dit, ah oui, mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on est plus avancé. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit des choses et il a inspiré des prophètes qui ont écrit la Bible. Et c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous l'étudions. C'est pour ça que nous la croyons. C'est pour ça que nous mettons notre foi dans sa parole aussi, parce que Dieu a parlé. Un chrétien qui n'a pas sa foi dans la Bible, il perd toute base pour croire en Dieu. Un livre qui est le plus attaqué, c'est le livre de la Genèse en particulier, hein, la création par Dieu. On dit oui, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Des chrétiens disent ça, des théologiens disent ça. Il n'y a rien de mythologique dans la Genèse. Il n'y a rien de légendaire, au contraire, ce sont des éléments qui sont racontés par des témoins. Et c'est un texte très concis. Les légendes en général en sont pleines de fioritures, mais là, la création elle-même tient en un chapitre, hein, ou deux chapitres maximum, très court. Et c'est Dieu qui parle, qui nous parle. Nous devons vraiment être aujourd'hui dans la foi, dans la confiance en Dieu. La foi, ça veut dire quoi dans tous les jours? Mais quand j'ai un problème, un besoin, je me tourne vers Dieu, je dis, Seigneur, je te prie d'exaucer ma prière, de répondre à mon besoin. Faites part de tous vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez pas, dit la Bible. Quand quelqu'un met en doute ma foi ou met en doute la Bible, je ne me laisse pas déstabiliser, mais je dis, je sais qui est l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et personne ne me laissera, m'égarera loin de la parole de Dieu. Même si c'est un théologien avec bac plus 12 qui connaît l'hébreu, le grec, l'araméen, le syriaque, tout ce que vous voulez. Il peut connaître toutes les langues anciennes et antiques. Peu importe. Ma foi est dans la parole de Dieu qui est inspirée. Je le sais parce que l'Esprit de Dieu en moi me le confirme. Cette parole, non seulement elle est inspirée, mais elle est éprouvée. Il y a des millions de chrétiens dans l'histoire qui ont vécu sur certains versets de la Bible. Hein. Nous avons chaque année reçu de notre sœur en Christ un verset, hein, une promesse de Dieu de la Bible. Mais vous savez qu'on peut vivre sur une promesse de Dieu. Tous les jours, elle peut nous soutenir, être notre réconfort, notre soutien, notre guide. La Bible est vraiment la lumière sur notre sentier. Mais il ne faut pas se laisser éloigner de la Bible. Ça, c'est le piège de Satan. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu cette année. Lisez-la. Méditez-la. Mémorisez-la. Le deuxième élément, après la foi, j'aimerais parler de l'amour. Dans les Bibles second non révisées, c'est la charité. Pourquoi il y a le mot charité? Parce que la charité, c'est plus que le simple sentiment d'amour. La charité, c'est un don de soi. C'est un sacrifice que l'on fait. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu l'amour de Dieu avec. Cet amour de Dieu qui est un océan qui ne s'arrête jamais d'aimer. Dieu est amour. Et c'est un amour extraordinaire parce qu'il est gratuit. C'est pas un amour comme nous, on a les hommes. J'aime les gens aimables. J'aime les gens qui me flattent. J'aime les gens humbles qui ne me contredisent pas. J'aime les gens merveilleux, gentils, généreux, doux. Ça, c'est l'amour humain. Et même cet amour humain diminue à chaque jour. Même dans les familles, il y a de moins en moins d'amour. Dans les pays, dans les nations, il y a de plus en plus de haine et de violence. Mais l'amour de Dieu, lui, est très différent. Il est gratuit. Il donne, il aime des gens qui ne sont pas aimables. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, hein, il y a ce verset extraordinaire. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour quand on était pécheurs, c'est-à-dire on n'était pas des saints, on n'était pas des bons croyants, on était parfois des impies, des athées, des agnostiques, des idolâtres. Peu importe ce qu'on était, Dieu nous a aimés et il l'a prouvé en mourant pour nous sur cette croix infâme. Christ n'est pas mort pour des saints. Il n'est pas mort pour un peuple élu merveilleux. Christ est mort pour des pécheurs, dit la Bible. Des gens qui avaient offensé la loi de Dieu, qui avaient offensé le nom de Dieu, qui avaient blasphémé pour certains, qui avaient tué, qui avaient volé, qui avaient menti, qui avaient trahi. Il est mort pour toutes ces personnes et nous en faisons partie. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et nous devons avoir à notre tour cet amour. On est content que Dieu nous aime comme ça. On se dit, ouf, heureusement que Dieu m'aime, moi, un pécheur ou une pécheresse, parce que franchement, je ne méritais pas qu'il m'aime. Hein. Ah, merci Seigneur de m'avoir aimé, de m'avoir sauvé. Maintenant, quand c'est notre tour d'aimer les autres, alors là, on n'est pas pareil. On n'a pas cet amour gratuit, gracieux. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Jésus a raconté cette fameuse histoire, hein, en forme de parabole, de cet homme qui devait énormément d'argent au roi. Mais vraiment, il devait une somme colossale. Et il vient pleurnicher devant au pied du roi. C'est l'heure parce que c'est l'heure de rendre sa dette. Il dit, oh, s'il te plaît, je n'ai pas de quoi payer. Fais grâce, fais-moi grâce. Et le roi, qui est vraiment magnanime, hein, lui dit, je te fais grâce de ta dette. J'ai pitié de toi, je te fais grâce de toute ta dette. Vous vous rendez compte, une somme colossale. Il sort ravi et là, il a son collègue qui lui doit mais une somme ridicule. Il dit, paye-moi ce que tu me dois maintenant. Et l'autre dit, mais écoute, je suis pauvre, je n'ai pas encore la semaine prochaine, si tu veux. Non, tout de suite. Et il l'amène au tribunal. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous croyez que le roi va faire avec cet homme? Hein? Moi, ça me fait bouillir cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cet hypocrite, cet homme injuste au plus haut point? Et il dit, le roi, hein, l'a condamné. Il lui a dit, moi, je t'ai remis une dette immense et toi, tu n'es pas capable de remettre quelques centimes à ton collègue. Eh bien, cet homme, c'est nous, chers amis. Quand nous avons des... Nous retenons des choses, des petites choses, des détails contre des autres êtres humains, hein, alors que Dieu nous a pardonné nos péchés mortels. Nous devons avoir cet amour de Dieu qui pardonne. Ici, nous avons lu que chez les Thessaloniciens, c'était un amour qui travaille. Là encore, l'amour dans la Bible n'est pas juste un sentiment. Oh, j'aime l'humanité, j'aime le monde, avec des cœurs. L'amour divin travaille, agit. Et nous devons être comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus aimait Dieu, son Père, et nous devons aimer Dieu, notre Père. Est-ce que vous aimez Dieu? Je ne dis pas, est-ce que vous ressentez quelque chose? Ce n'est pas un ressenti ou un sentiment. Est-ce que vous l'aimez pour lui, pour sa personne? Est-ce que vous l'aimez pour ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous avez une relation vraiment d'amitié, d'amour profond entre vous et Dieu? Ou est-ce que Dieu est pour vous un être lointain? Le Seigneur Jésus, quand il était l'incarnation de Dieu sur terre, hein, il obéissait à son Père. Et l'amour pour Dieu passe par l'obéissance. Pas une obéissance servile, une obéissance vaine, vile, hein, mais une obéissance d'amour. J'aime Dieu, donc je vais lui obéir. Et c'est très important de mettre les deux choses ensemble. Si je n'obéis pas à Dieu, à ce qu'il me dit, à sa parole, au Saint-Esprit, et que je dis j'aime Dieu, je suis menteur. Si je dis j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère ou ma sœur à côté de moi, je suis menteur. Si j'aime Dieu, ça doit se voir, doit y avoir un travail. Et puis le Seigneur aimait ses frères dans la foi, hein, bien que Jésus n'avait pas la foi, mais il aimait ses disciples. Et nous, nous devons aimer les frères et sœurs en Christ. Comment aimer les frères et sœurs en Christ? D'abord, il faut prier pour eux. On doit prier les uns pour les autres, c'est écrit. Prier pour tous les saints, tous les chrétiens. On doit aussi se pardonner mutuellement. On doit s'exhorter, s'encourager mutuellement. Là encore, si je viens à l'église juste pour le moment du message, ou si je viens à l'église juste pour avoir une bonne communion, ce n'est pas le plan de Dieu au départ. Le plan de Dieu au départ, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que nous saurons si vous êtes ses disciples. Est-ce que je suis un disciple? C'est à l'amour que j'ai, cet amour qui travaille pour les autres. Je dois aussi aimer ma famille dans la chair, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Et même s'ils ne sont pas croyants, peu importe, Dieu m'a placé dans cette famille, alors je dois prier pour eux, je dois être une lumière pour eux, je dois les aimer, les pardonner, les soutenir, les encourager. On doit s'occuper particulièrement de ses parents, c'est un commandement de Dieu. Également, comme Jésus, nous devons aimer l'humanité errante et sans berger. Plusieurs fois, hein, Jésus s'est retrouvé en hauteur, et il a vu la foule qui était comme des brebis sans berger. Et Jésus a eu compassion de la foule. C'est pas que c'était une compassion un peu lointaine, c'est qu'il avait vraiment, il souffrait pour ces gens. Il souffrait de les voir meurtris, parce que, encore une fois, c'était une époque très dure. Ils étaient sous l'emprise de dictateurs. Entre Hérode et Pilate, hein, ils avaient deux dictateurs sur eux dans un tout petit pays. Et des dictateurs cruels, des Bachar el-Assad, hein, en puissance. Non seulement ça, mais il y avait des guerres intestines. Il y avait les zélotes qui voulaient faire la guerre à tout le monde. Il y avait les pharisiens qui confisquaient la religion. Il y avait le manque de compassion pour les lépreux, pour les prostituées, pour les démoniaques. Il y avait ces démoniaques partout, hein, qui personne ne savait comment gérer ça. Il a fallu que le Seigneur Jésus arrive et chasse les démons. Et malgré tout cela, eh bien, le Seigneur est venu justement pour sauver les âmes, délivrer les âmes. Et nous devons avoir son amour pour les âmes perdues, pour ce monde sans berger. Alors, c'est sûr que c'est parfois difficile parce qu'en France, on est particulièrement arrogant. On a ce côté un peu orgueilleux. Nous, les Français, on a besoin de rien. Le monde peut s'écrouler. Nous, les Français, on va s'en sortir. On est Français. Rien aux Français, rien n'est impossible. Hein. Impossible n'est pas français. Vous connaissez hein, le... Voilà, c'est nous les plus forts. Sauf que là, on est en train de voir que le français n'est pas si fort que ça. Et je prie que le français se rende compte qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Que ce n'est pas de la faiblesse que de croire en Dieu, d'avoir la foi. Au contraire, c'est une force dans la vie. Que d'être athée ou d'être agnostique, c'est dans le vide total. Vous n'avez rien. Quand vous êtes joyeux, vous dites « bon, ben, c'est super ». Et quand vous êtes triste, ben, vous n'avez personne pour vous relever. C'est horrible, c'est vide. Quand on a le Seigneur dans sa vie, on a un sens. Quand on est joyeux, on dit « merci Seigneur, c'est super, la vie est belle ». Et quand on est triste, on dit « merci Seigneur, la vie est belle parce que tu es avec moi dans la tristesse, tu souffres avec moi, tu m'aides ». Mais vous dites « moi je ne suis pas Jésus, hein. Je n'ai pas cet amour extraordinaire, j'ai déjà du mal à aimer ma famille, alors imaginez les autres ». Mais si tu as la foi au Seigneur Jésus, tu as reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Dans le passage de Romains que je vous ai lu, le verset 5 dit « L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc si j'ai reçu l'Esprit de Jésus-Christ, j'ai reçu l'amour de Jésus-Christ qui est cet amour extraordinaire. Ce n'est pas mon amour, c'est celui de Dieu. Est-ce que vous avez l'amour de Dieu qui coule ? Qui jaillit. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez bouché la source. Hein? Et il est temps de la déboucher, d'enlever le péché, l'individualisme, l'égoïsme, le narcissisme, l'idolâtrie, tout ce qui empêche l'amour de Dieu de couler de vous, à travers vous, et de se répandre sur les autres. L'amour de Dieu, ce n'est pas simplement pour moi. Ce n'est pas de me dire « Ah, Dieu m'aime, c'est merveilleux !» Ah, je suis aimé de Dieu. C'est vrai que c'est merveilleux d'être aimé par Dieu, de savoir que son amour est inconditionnel, inaltérable, éternel. Dieu m'aime. Sauf que Dieu m'aime pas seulement pour moi, il m'aime pour que j'aime aussi les autres. Ça doit couler. Le dernier élément de la vie chrétienne qui est fondamental, c'est l'espérance. Dans la Bible hébraïque, le mot hébreu dans la Bible grecque, le mot grec désigne l'espérance comme une attente certaine et joyeuse. L'espérance, c'est notre attente certaine et joyeuse. C'est une anticipation d'un futur radieux. L'espérance chrétienne, c'est pas peut-être, j'espère, je fais tout ce que je peux, mais non, l'espérance chrétienne, c'est une joie. J'attends avec joie. Je ne sais pas ce que vous attendez avec joie. Des fois, on attend le week-end. Hein. ou alors, vous êtes invité chez des amis. « Ah, samedi, on va manger avec les amis. J'attends ce moment. On va se retrouver. Ça va être super. » Vous attendez le dimanche avec joie. Vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais le chrétien, il attend le Seigneur. Il attend la vie éternelle. Il attend le retour de Christ avec joie. Les Thessaloniciens, là, il nous est dit, hein, toujours le chapitre 1, verset 9, on raconte... Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, donc c'était des idolâtres au départ, hein, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère à venir. Il y a un jour que Dieu a fixé pour le jugement de toute la terre, où le mal va être jugé et éradiqué, et où la justice de Christ va s'installer, une justice parfaite. En attendant, il faut souffrir l'imperfection de la terre, le mal qui règne, hein, Il faut reconnaître que le mal est plutôt régnant. Mais Dieu patiente pour laisser aux hommes le temps de se repentir. Mais nous, nous attendons ce jour, on va ressusciter et on va entrer dans la gloire éternelle. On aura la vie éternelle, on va vivre éternellement avec le Seigneur. Nous attendons ce jour avec certitude, parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit, donc je sais que je suis scellé pour ce jour-là. Je suis certain que si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il va me ressusciter moi aussi au jour de la résurrection. Quelle est votre espérance? Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle? Voilà, il y a une personne merveilleuse. Non, je sais qu'il y en a d'autres. Comment être sûr d'être sauvé? Mais c'est justement la foi dans l'œuvre de Christ pour nous. Ce n'est pas nous qui allons faire des œuvres pour être sauvés. C'est Christ qui a tout accompli. En mourant et en ressuscitant, il a tout payé. La Bible dit qu'il a payé toute notre dette pour tous nos péchés et que celui qui met sa foi en Jésus-Christ est pardonné de tous ses péchés. Ce n'est pas une promesse vaine. Ce n'est pas des mots en l'air de la Bible, hein, de Dieu. C'est une promesse certaine et nous pouvons en être sûrs. Tant de gens qui sont dans les religions chrétiennes, hein, n'ont pas du tout de certitude. Ils disent « Ah, j'espère que Dieu verra que j'étais un bon chrétien. » Mais non, Dieu ne verra pas que j'étais un bon chrétien. Je n'étais pas un bon chrétien. Ce que Dieu doit voir lorsqu'il va nous juger, c'est Christ, c'est la justice de Christ. C'est ça qu'il doit voir, ce n'est pas nous. Est-ce que j'ai cru que Jésus-Christ me sauvait? Est-ce qu'il est vraiment mon sauveur? C'est un mot quand même fort, sauveur. Est-ce qu'il m'a sauvé? Beaucoup de gens disent « Oui, Jésus est le sauveur. Est-ce qu'il vous a sauvé ?» Ben, alors, il est le sauveur ou il n'est pas le sauveur? Ben, il m'aide à me sauver. Non, la Bible ne dit pas qu'il nous aide à nous sauver. La Bible dit qu'il nous sauve. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se mettre à côté. Allez, tous les matins, sois un bon chrétien, fais des bonnes œuvres. Hein, parce que si tu ne fais pas des bonnes œuvres, tu vas en enfer. Donc, il vaut mieux que tu aies intérêt à faire des bonnes œuvres jusqu'au bout. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ, il est venu sur la croix mourir pour nous. Et la Bible dit que quand sa dernière parole, ça a été « Tout est accompli, il a tout payé. » Et 3 jours après, il est sorti victorieux de cette mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir, parce qu'il est le Sauveur. Est-ce qu'il est votre Sauveur? Est-ce que vous avez cette espérance que lorsque le Seigneur va revenir, et ça peut être d'un instant à l'autre, vous serez pris avec lui? Nous voyons que le monde se prépare, hein, pour un antéchrist, il y a ce chaos qui se met en place, cette anarchie, hein, qui va laisser la place à un dictateur. Le dictateur, il va se régaler en arrivant, il va dire « C'est l'anarchie, moi je vais vous aider, je vais mettre de l'ordre. Chic !» Hitler a fait comme ça, hein, et le prochain, l'antéchrist, fera de même. Voilà, il s'est fait élire même, hein, pour régner sur les gens. Et donc, nous savons que le monde va passer sous la colère de Dieu, mais que ceux qui croient au Seigneur seront sauvés. C'est votre moment maintenant d'avoir la foi, d'avoir l'amour, d'avoir l'espérance. Ces 3 choses demeurent. Si vous n'avez rien d'autre, si vous perdez votre maison, votre travail et votre tout, si vous avez la foi, l'amour, l'espérance, vous avez ce qui suffit. Parce que vous avez Dieu avec vous et parce que vous avez une vie chrétienne accomplie. Pleine. Ne ratez pas le rendez-vous de Dieu, ne ratez pas les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Mettez votre foi dans cette parole vivante et agissante. Et que le Seigneur, eh bien, sauve beaucoup de gens dans notre pays. On va s'incliner dans la prière. Dans un instant, nous aurons un chant. Mais juste avant, prenons ce temps. Si le Seigneur a frappé à votre porte ce matin, il faut lui ouvrir parce qu'il vous réserve tellement de joie, d'amour et de grâce, de pardon. Vous avez peut-être résisté ou retenu jusque-là, mais là c'est l'heure d'ouvrir et de dire « Seigneur, entre dans ma vie, lave-moi de tous mes péchés, accorde-moi ton pardon par Jésus-Christ. Et donne-moi cet amour que je n'ai pas. Donne-moi cette paix que je n'ai pas. Donne-moi cette joie que je n'ai pas. Donne-moi cette pureté que je n'ai pas. Viens dans mon cœur, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai désobéi à ta loi, que je n'ai pas écouté ta parole, que j'ai résisté à ton amour, que j'ai même douté de toi. Je le reconnais et je t'en demande pardon. Veuille me pardonner à cause de Jésus-Christ qui est mort pour moi. Oui, je l'accepte comme mon sauveur et je reçois son espérance dans ma vie. Si vous avez prié de cette façon, le Seigneur vous a entendu parce qu'il nous entend. Il entend nos pensées, il entend nos soupirs. C'est le moment pour vous de croire, de lui faire confiance. Je crois que tu me pardonnes parce que tu l'as promis. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Croyez-le. C'est ça la foi. Notre Père, merci de ta parole qui est notre lumière sur le sentier, justement. Lorsqu'on ne voit plus très clair, lorsque c'est le chaos, l'anarchie, nous pouvons être sûrs que ta parole est notre guide. Merci, Seigneur, de guider chaque chrétien ici. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore dans la foi, qui ne sont pas encore devenus tes enfants, qu'ils fassent le pas aujourd'hui, qu'ils ne sortent pas sans être réconciliés avec leur Créateur, sans t'avoir connu. Seigneur, vraiment, conduis-les vers le chemin de la foi et du salut. Et nous prions pour cette ville. Nous te demandons, Seigneur, que beaucoup se tournent vers toi dans la repentance, que les Français mettent de côté leur orgueil et commencent à s'humilier, à reconnaître leurs péchés. Je te prie pour les musulmans, Seigneur, aussi, qu'ils reconnaissent leurs péchés. Je prie pour le peuple juif qui reconnaisse son péché. Je prie pour tous les hommes, Seigneur, de ce pays. Et je te prie pour nous qui avons cru en toi. Nous voulons aussi, Seigneur, reconnaître que nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut. Veuille nous pardonner, Seigneur. Et nous donner une vie abondante avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je le prie. Amen.